Quelque 3,5% d'ouverture supplémentaire du marché canadien à la volaille des États-Unis et du Mexique est une chose. Compte tenu du bon état de santé de la production et du marché interne canadien pour le poulet, on pourrait dire que la situation va être gérable. Comme le disent les éleveurs, on va se relever les manches, maintenir la haute qualité de nos productions, développer de nouveaux produits et conserver la confiance des consommateurs. En revanche, il va falloir une prise de conscience plus générale des consommateurs sur l'importance de nous soutenir. Et cela est particulièrement vrai pour la viande de dindon. J'ai fait le point avec le président des éleveurs.
Pierre-Luc Leblanc, président des éleveurs de volailles du Québec.
Monsieur Leblanc, à la suite de la signature de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, la nouvelle version de l'ALENA, si on veut, il y a des répercussions dans des secteurs. On a beaucoup parlé du lait, mais il y a aussi des répercussions dans le secteur de la volaille. Ça représente quoi chez vous?
Bien, nous, toute concession qui est faite en l'égard de gestion de l'offre, premièrement, bien, on est de tout cœur avec les producteurs laitiers, parce que quand on attaque la gestion de l'offre par les producteurs laitiers, indirectement, nous, la volaille, on est touché. Donc, premièrement, un gros impact sur les producteurs laitiers, puis on est de tout cœur avec eux, puis on est solidaire avec eux parce que c'est un gros maillon de la gestion de l'offre. Du côté de la volaille, principal touché, c'est surtout le dindon. Le dindon, c'est une production qui a peu de croissance, qui est en développement, et on donne 1,4% d'accès supplémentaire là, du côté du dindon avec des mesures qui sont reliées aussi à l'exportation qu'on faisait sur la viande brune. Donc, plus qu'on exporte, plus que le pourcentage d'importation va être grand. Donc, c'est des petites concessions, mais qui ont quand même des impacts assez grands pour le futur. Donc, secteur des dons, secteur peu de croissance, c'est des ouvertures directes. Donc, c'est vraiment là, des pertes de marché à court terme pour les producteurs. Du côté du poulet, on a changé la méthode. Au lieu d'avoir un pourcentage sur les importations, c'est un taux fixe. Donc, le gouvernement a estimé des importations, des croissances à long terme et a concédé une part de notre croissance là, vraiment aux Américains là, pour les 16 prochaines années. Donc, c'est des concessions donc, qui vont être faites. Les éleveurs vont faire un bon marketing, vont faire un bon poulet. Ils vont faire du poulet de qualité comme qu'on a toujours fait, comme qu'on se doit de faire, comme que le consommateur veut. Mais à la fin de la journée, nos efforts vont être donnés en partie aux Américains.
C'est un peu ce que concluait le rapport de PricewaterhouseCoopers au moment où la coop fédérée et vous-même, vous étiez là à ce moment-là, a rendu public cette étude. Le secteur du dindon est plus particulièrement fragile.
Ah, définitivement, la croissance, c'est une viande qui a des vertus incroyables, qui est saine, qui est bonne pour la santé, qui est maigre, mais que le consommateur canadien, surtout québécois, pas tendance à, en tout cas, peu de tendance ou peu d'ouverture à l'essayer. Malgré les efforts marketing qu'on fait, les éleveurs juste au Québec, on met au-delà d'un million de dollars en promotion pour promouvoir cette viande. Et comme que on a encore du travail à faire sur le développement de la commercialisation de cette viande-là, bien, ça fait en sorte que c'est pas une viande qui est commune comme celle du poulet. Le poulet, les restaurants, les rôtisseries Saint-Hubert, on voit Benny qui prend de la croissance. Plusieurs font de la promotion pour promouvoir cette viande-là. Donc, on a des volumes qui sont plus grands. Tandis que dans le dindon, si on produit 30-quelques millions de kilos, 36-37 millions de kilos de dindon par année au Québec, donc c'est beaucoup moins grand que les volumes du poulet. Donc, tout est fait sur un petit volume, fait en sorte que tu es directement touché. Et les producteurs de dindon vont subir un petit contre-coup, mais quand même, là, on va se retrousser les manches. Là, je pense qu'à la fin de la journée, la gestion de l'offre, où est touchée, on est encore en vie. Les prochaines qui viennent, par exemple, là, on va voir le Mercosur qui s'en vient, l'Argentine, Brésil. C'est des ententes là, que le gouvernement ne pourra pas concéder. Les concessions ont été faites. Et maintenant, il va falloir se retrousser les manches, travailler, développer plus de marchés. Je pense qu'on est encore en vie. On est touché. On est encore en vie. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais à partir de là, il faut se retrousser les manches, il faut faire un marketing, il faut dire aux gens, consommer de la dinde locale, consommer du poulet canadien, consommer du dindon local, sont de qualité. C'est une viande de confiance. C'est consommé chez nous. Ça crée de l'emploi chez nous. Puis plus que les gens vont dire qu'ils veulent manger un dindon ou un poulet québécois, canadien, mais à la fin de la journée, les impacts vont diminuer.
Je voudrais revenir sur un des éléments. Vous avez dit une clause prévoit que dans le cas de la viande brune, si, pour laquelle vous avez un certain marché aux États-Unis, si vous augmentez vos livraisons aux États-Unis, en parallèle, en contrepartie, ça veut dire que les Américains peuvent augmenter dans la même proportion leur livraison sur le marché québécois et canadien.
Oui, c'est ça. Mais aussi au Canada, on est des amateurs de viande blanche. Donc, la poitrine est d'à propos. Les viandes brunes, souvent, sont exportées peu importe où dans le monde, surtout en Asie. Dans le cas du dindon, beaucoup en Russie, de mémoire. Mais maintenant, le taux, parce qu'on est un pourcentage d'importation. Donc, avant, on était à 3,5, là, on va être à 3,9. Mais le problème, c'est que maintenant, ils vont faire le calcul sur toute la production, qui n'est pas seulement pour la consommation domestique, mais aussi pour la production qui va aller domestique plus exportation. Donc, si on augmente nos exportations, mais les Américains se donnent un droit plus grand par le pourcentage qui est appliqué. Donc, c'est des petites choses comme ça que le gouvernement a concédées, mais qui vont venir nous affecter davantage. Donc, c'est pas juste l'ouverture en tant que telle, mais un paquet de petites clauses comme ça qui vient qu'on est affaibli ou qu'on affaiblit la gestion de l'offre. Et là, à long terme, là, dans les prochains accords, il faudra être vigilant pour s'assurer là, qu'on limite les concessions.
Justement, vous parlez d'autres négociations qui s'en viennent, qui sont, semble-t-il, même amorcées en coulisses. Là, on a déjà le terrain préparé, semble-t-il. Mais et là, on peut tomber dans la politique, si on veut. Le premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, dit que, bon, la gestion de l'offre, là, c'est fait. Là, ça va être maintenant, à partir de maintenant, la stabilité. Est-ce que vous avez des petits doutes là-dessus?
Bien, on va être porté à le croire. Il faut tout le temps donner la chance aux élus. Les politiciens ont de la pression. On est capable, nous, on est même des politiciens à petite échelle. On sait comment ça marche, la politique. Mais à la fin de la journée, je pense que les concessions avec le Transpacifique, où ce que la volaille a été touchée, maintenant l'ALENA, on espère que c'est terminé, puis qu'on va continuer, parce qu'on a le meilleur système au monde. On fait les envies de tous les agriculteurs de la planète, puis pourquoi enlever quelque chose qui marche? Fait qu'à la fin de la journée, je pense que le gouvernement le réalise, la population le réalise. Si la gestion de l'offre n'aurait pas marché, le poulet ne serait pas la viande la plus consommée au Canada actuellement. Donc, on est encouragé pour les prochaines négociations. On va rester en vie. On espère que le gouvernement comprend notre message aujourd'hui, puis que la gestion de l'offre soit quelque chose qu'on pourra léguer aux nouveaux investisseurs dans l'avenir, ou en tout cas à nos prochaines générations, puis espérant que ma famille pourra continuer de garder la troisième génération sur la ferme.
Des transformateurs comme Exceldor, comme Olimel, Flamingo, la répercussion, est-ce que déjà vous avez eu des discussions avec ces gens-là sur de possibles répercussions sur les activités de ces entreprises-là?
Non, on a déjà une rencontre de prévue fin du mois d'octobre avec eux pour parler justement de marketing, d'indon, parler de nos initiatives qu'on fera ensemble là, dans les prochains 6 mois. Comme je disais tantôt, c'est certain qu'il y a des répercussions à court terme dans le dindon. Dans le poulet, c'est un pourcentage qui est déjà donné, un pourcentage fixe. Moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on pourrait faire avec eux rapidement, c'est de bien concerter là, comment on peut prendre nos augmentations de parts de marché, comment que le Québec peut se tirer d'affaires avec des concessions plus grandes, comment on peut augmenter nos parts de marché. Le Québec, c'est une province qui est dynamique. On a des producteurs dynamiques qui ont le souci du détail, qui ont le souci du bien-être animal. Donc, on est capable d'augmenter nos parts de marché, puis de travailler ensemble, puis réduire les impacts. C'est deux coopératives. À la fin de la journée, Olimel, ça appartient à Coupe Fédérée. Exceldor, ça appartient à des producteurs. Donc, le discours doit être certes plus facile que d'autres provinces. Et c'est à nous de tirer avantage de la situation qu'on a au Québec présentement.
En terminant, le consommateur ou les consommateurs, de façon générale, vous leur voyez un rôle important. On parlait de la viande brune versus la viande blanche tout à l'heure. De façon globale, les gens ont intérêt et vous souhaitez que les consommateurs vérifient ce qu'ils achètent d'une part et justement insistent sur le fait que c'est bon pour l'ensemble de l'économie du Québec et du Canada que d'acheter des productions qui sont bien identifiées localement.
Ben oui, je m'amuse toujours à dire à Saint-Hyacinthe, si on n'a pas d'agriculture, tu sais, moi je viens de Saint-Hyacinthe, je parle de cet exemple-là. L'agriculture, c'est pas juste l'agriculteur, c'est les gens qui travaillent justement pour Olimel, pour Saputo, pour Agropeu. C'est même aussi le comptable qui a comment, dans sa liste de clients, quel pourcentage c'est des fournisseurs d'intrants, fournitures d'équipement, des agriculteurs eux-mêmes. L'agriculture, là, c'est immense. Donc, c'est pour tout le monde. Ça implique beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, il faut que les gens réalisent qu'à la fin de la journée, quand on encourage, peu importe le domaine, peu importe le produit, à la fin de la journée, si on consomme un produit d'ici, on encourage notre économie. Et puis, un pays fort. Puis, pourquoi les Américains veulent tant avoir des produits laitiers ou des produits de volaille? C'est qu'à la fin de la journée, ça crée de l'emploi. Tu consommes du grain, tu le mets en moulé, tu fais travailler des meuneries, tu fais travailler des gens qui travaillent aux meuneries, tu fais travailler les agriculteurs, puis après, tu vas transformer ton produit en croquettes, en yogourt, etc. Donc, ça génère de l'économie, ça génère de l'emploi. Donc, un pays fort, puis ça, c'est le message qu'on lance au gouvernement. Si on veut être un pays fort, un pays à long terme qui est solide, bien, c'est un pays qui prend ses matières premières, puis on en a du grain au Canada. on est capable de les transformer pour l'élevage, puis après, on est capable d'avoir des usines de surtransformation. Ça, ça génère une économie. Puis à la fin de la journée, c'est ensemble qu'on va y arriver. Puis il faut pas céder les marchés où ce que on a des matières premières à développer. Puis c'est pas vrai qu'on prend de matières premières, on va prendre un bateau de grains. Puis nos producteurs de grains vont aller au port, puis ils vont vendre le grain aux étrangers, puis les étrangers vont faire de la viande qu'on va racheter. C'est à nous autres, comme peuple, de dire on va transformer nos matières premières, puis on va se nourrir nous-mêmes. Puis c'est dans cette philosophie-là qu'il faut travailler avec nos fournisseurs, nos transformateurs, puis de s'encourager, puis de dire à la population c'est toujours payant de consommer localement.
Bien, M. Leblanc, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.
Ici Lionel Levac. Dans le secteur de la volaille, la viande blanche est très populaire. C'est un peu comme les crevettes, le saumon et la truite quand il est question de fruits de mer. Cependant, pour nombre de préparations, la viande plus foncée convient fort bien. Et elle est plus goûteuse, à mon avis. Tout cela est question d'habitude, et l'on voit bien dans le difficile contexte des accords commerciaux avec l'étranger que de petits gestes de la part de chaque consommateur, par exemple aussi de vérifier la provenance de la volaille, peut faire une bonne différence, et tout cela pour protéger une part non négligeable de nos élevages, particulièrement dans le dindon. Au revoir.